Qu'est-ce qui est orange, pédophile et recueille tous les suffrages?
Donald Trump?
Ben non, Casimir.
Là où ça sent la merde, ça sent l'aide.
Si vous aviez à vous définir d'un mot, qu'est-ce que vous diriez?
Eh ben, c'est que je travaille et que les autres foutent rien. Voilà exactement ce que je pense.
Je veux dire l'idée que je me fais de mon art et du rôle de l'écrivain.
Le caca!
Bonjour à tous et bienvenue sur Deuxième Un Bouquin, le podcast qui prend les livres par la quatrième de couverture. Salut Mathieu, comment ça va?
Salut Gilles Sarou.
Bah plutôt pas mal, un peu un temps de chiottes, mais franchement ça va. Et toi, Nouvelle-Zélande, il y a des petites nouvelles?
Ouais, il y a eu un tremblement de terre il y a deux nuits de ça, et mon lit a fait un 360 degrés, donc voilà, ça c'était les nouvelles. C'est pas trop, on n'en a pas trop entendu parler en France, mais là en ce moment
on
la
s'en
ville,
fiche.
mais c'est quand même intéressant. Hein, la ville est devenue une ville complètement zombie. Il y a plus personne et moi je vais pas au boulot parce que c'est fermé. Voilà.
Bon bah écoute, c'est une belle entrée en matière, donc ça veut dire qu'on est vraiment de bons chômeurs à créer un podcast.
Exactement.
Je pense que maintenant on peut faire le sommaire.
Vas-y, je t'en
donc,
prie.
Donc comme d'habitude, le principe de l'émission, c'est de prendre un classique ou un bouquin qui a fait du bruit, disons avant le 21e siècle, et le trasher. Et là, pour cette semaine, ça sera l'enfer d'Henri Barbus.
Ouais, alors après, en deuxième partie, comme d'habitude, on va faire un petit billet d'humeur. Je dis comme d'habitude, mais là, on en est qu'au deuxième numéro. Donc, mais c'est quand même déjà une habitude. Un petit billet d'humeur et un débat.
Et après ça, on conclut avec nos recommandations.
Les recommandations, attention, allez, là, c'est chaud. Et c'est, en plus, c'est dans l'actualité, je pense. Mais on garde la surprise pour la fin.
Évidemment. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de l'enfer de notre compère Riton?
Alors, est-ce que tu veux que je te donne déjà mon avis ou on parle un peu de... Parce que mon avis, je pense que ça va prendre un peu de temps.
Ouais, commençons par une petite biographie. Parlons de Riton.
Alors, quand
c'est Henri Barbus?
Quand c'est-il qu'il est né?
1973
1873. Ouais, 1873.
1873.
Donc,
ouais, pas mal.
Juste après la guerre franco-prussienne et la Commune. Il est né à
Agnières. Il est né à Agnières.
Voilà, en plus, il est né en région parisienne. Donc voilà. Et il a publié L'Enfer en 1908. Ouais.
Et après ça, il s'est surtout fait connaître par Le Feu, qui est le bouquin phare qui a reçu le Goncourt en 1916 et qui raconte ça. Son expérience du front, des tranchées, du froid, de l'humidité, des poils et du sexe entre hommes au front.
Voilà. Alors, d'ailleurs, l'enfer, il n'y a pas la partie guerre, mais il y a un peu tout ce que tu viens d'énoncer, là.
Enfin, les tranchées et l'amour homme-homme.
Voilà.
Il y a une petite particularité aussi, c'est qu'il est mort à Moscou, cet homme-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Alors, il est mort à Moscou et apparemment, donc il était fasciné par le communisme et il aurait écrit une petite biographie caricaturale de Staline et il serait parti lui rendre visite à Moscou. Enfin, ça, c'est là, je dis ça au conditionnel, mais en fait, c'est réel. Il a été rendre visite à notre cher ami Staline, et puis il est mort.
Le petit peur des peuples.
Le petit peur des peuples, et il est mort, étrangement. Comme
il est mort en voyage. Après, il est mort en 35, donc juste avant les procès, on peut pas encore, disons... Voilà, mais d'aucuns aiment à penser que ce serait Staline qui l'aurait assassiné, pour une divergence, ou quelque chose. Enfin, étrange fin pour un étrange homme, n'est-ce
voilà.
pas
C'est des âmes chagrines, hein. apparemment Trotsky serait mort aussi, ce serait apparemment Staline, mais alors ça... Hein.
Ça fait partie des dessous de plat de l'histoire, ça on ne sait pas.
Ouais, exactement, on ne sait pas.
Qu'est-ce que t'as pensé de ce bouquin, toi Mathieu, L'Enfer d'Henri Barbus?
Alors,
et puis est-ce que tu peux me le... en quelques mots, quel est le contexte?
Quel est le pitch? Oui, puisque en fait on va... Alors c'est un bien grand titre pour un... tout petit pitch, puisque simplement en fait c'est un jeune provincial qui arrive à Paris et donc il prend une chambre d'hôtel. Ça commence comme ça, puisque la première phrase il parle de la patronne, de la tenancière de l'hôtel. L'hôtesse, madame Lemercier, me laissa seule dans ma chambre, et donc c'est juste ça. Et en fait il découvre en fait qu'il y a une petite brèche au-dessus d'une porte dans sa chambre, et cette brèche elle donne sur la chambre d'à côté. Et ça va lui permettre, s'il se met sur la pointe des pieds, ça va lui permettre donc d'observer la chambre d'à côté. Et alors, dans cette chambre, il va s'en passer des choses.
Ah, ça, il va s'en passer des choses, et tellement que ce sera un petit résumé de la vie. En fait, c'est Henri Barbus, pour lui, la vie, c'est l'enfer. C'est clairement cette façon-là de présenter les choses qu'il a dans le bouquin.
Exactement, ouais. Littéralement. Puisqu'en fait, même ce jeune homme, même il n'a pas vraiment besoin d'observer les gens pour déjà être un peu perturbé. Voilà, il a des mœurs très très libertines, mais même ça le fascine pas en fait. Ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui veut croquer la vie à pleines dents, mais il est pas vraiment sûr de ce qu'il veut. Alors, il y a une phrase d'ailleurs dans le livre, il n'y a d'enfer que la fureur de vivre. C'est cette envie de croquer la vie en permanence et de ne pas savoir ce qu'on veut.
Ah ouais, je suis d'accord. J'ai aussi remarqué ce passage. Mais sauf que j'ai vraiment du mal à apprécier cette citation, hein, disons, à sa juste valeur, parce que on a très vite l'impression qu'il ne vit pas, cet homme-là. Il vit par procuration, en fait. Je sais pas si t'as eu cette même impression. En fait, il vit en regardant la vie des autres.
Oui, clairement. Mais ça, parce que lui, c'est un peu même c'est fait exprès, hein. C'est un personnage qui est extrêmement vide. On sait pas du tout qui c'est, à part qu'il va occuper un poste dans une banque à Paris. On sait absolument pas qui c'est. D'ailleurs, je sais même pas si on sait son nom.
Non. Il me semble pas.
Non, ben voilà, on n'a pas son nom, et donc on n'a pas non plus l'identité de ce personnage, donc on sait pas exactement qui c'est. On sait simplement, on connaît ses envies en fait, et on connaît juste ses commentaires par rapport à ce qu'il va observer dans la chambre. Et alors, comme c'est une chambre d'hôtel, bien entendu, on a différents types de locataires. Alors, donc il y a une série. Est-ce que t'as noté qui passait successivement?
Alors pour moi, ça débute par un couple vaguement adultérin, non?
Alors en premier, c'est une femme de ménage. Il y a une servante qui passe.
Ah, la femme de ménage.
Oui.
Donc une scène teintée d'érotisme.
Voilà. Donc en fait, ça dure. C'est une scène très brève où on voit une femme de ménage. Il assiste. C'est la première personne qui voit entrer dans la chambre d'à côté. Alors déjà, ça lui crée un émoi pas possible. Donc il voit une femme de ménage ou une servante, je ne sais plus, entrer dans la chambre, sortir une lettre d'amour et la mettre près de son cœur. Procédé grâce auquel nous comprenons que la jeune femme est amoureuse et que son amour est secret, qu'elle a reçu une lettre de son cher amant.
Ouais, ça débute un peu de cette façon-là, avec on imagine les regards langoureux qu'elle jette par la fenêtre, espérant peut-être voir à l'horizon l'apparition de son amant caché.
Voilà.
Qui laisse fait, on est beaucoup dans la supposition.
Je commençais à frissonner devant cette femme qui s'entrouvrait et saignait d'un sourire.
Ah, c'est beau.
Voilà. Mais alors ça, je pense que je me suis trompé de passage, puisque je pense que c'est ce qui va se passer après.
Pas forcément.
Ça pourrait être.
Parce que les les deux scènes du début se ressemblent un peu, en fait. Alors très rapidement après. Il y a le couple adultérin, là, j'espère que c'est enfin eux.
Alors, je suis désolé, mais c'est pas encore eux, en fait, puisque après ça, il y a deux petits-enfants.
C'est avant les enfants? Très bien, donc il y a une évolution dans l'amour. D'abord, on le suppose, ensuite, on observe les prémices, et enfin, l'apothéose, avec l'adultère. Mais donc, d'abord, c'est les enfants.
Alors, c'est les enfants qui parlent comme des adultes, hein. Ils parlent d'ailleurs comme des adultes, pas comme tous les adultes. En plus, c'est des adultes très, très torturés. Donc, c'est des enfants qui, eux aussi, s'aiment en secret et qui vont dans cette chambre pour s'embrasser pour la première fois. C'est tout mignon.
Ouais, donc, alors, quand nous, on joue à touche pipi dans les toilettes, eux, ils louent une chambre d'hôtel. Donc, ils la louent pas, d'ailleurs. Je crois qu'ils risquent. Mais bon, le fait est que c'est quand même ils sont assez précoces, quand même, pour leur âge.
Ouais, quand même, ouais. Donc, tu vas pouvoir le dire. Alors, qu'est-ce qui passe après les enfants?
Ne serait-ce pas le couple adultérin?
Ben, c'est ça. Donc, c'est un couple adultérin. Et donc, eux, ils vont occuper une bonne partie du livre, puisqu'il reste plusieurs jours, je crois.
Il reste plusieurs jours. Disons, on voit l'évolution. Pour le coup, c'est les rares personnages dont on voit une évolution, parce qu'on les observe donc sur plusieurs jours, alors que les autres, clairement, ils ne font que passer. Donc en fait, là, on a un peu le temps de découvrir les personnages. Par exemple, on apprend que la fille est une lorette un peu... Je sais pas trop quel est son relief. Et l'homme est un... Poète, hein, poète, alors pour le coup véritablement torturé, il aurait écouté The Cure clairement s'il était né dans les années 70, donc je dis, et voilà, donc ça on le découvre petit à petit, et ça c'est assez sympathique, mais comme dans l'ensemble du bouquin, il y a pas mal de longueurs dans le, enfin disons dans, la descri... dans les descriptions des gestes, parce qu'il faut imaginer que la description des actions, etc., de l'observation est toujours entrecoupée de réactions physiques ou de réactions mentales ou psychologiques chez l'observateur, donc un peu pervers. Et on a du mal un peu à voir où il veut en venir. On sent une détestation de l'être humain, mais à part ça, compliqué de savoir où il va.
Il y a beaucoup, c'est assez touffu en fait. Il y a beaucoup d'idées qui se succèdent. Mais ouais. Mais pour revenir à ce couple en fait, ce qu'il faut dire, c'est que moi, c'est ce que j'en ai pensé. Je pense que la femme, en fait, c'est un peu comme une Madame Bovary en fait. Elle s'ennuie énormément. Elle s'ennuie beaucoup avec son mari. Et en fait, elle le dit en fait. Ils sont pas amoureux, ces amants. Ils sont pas forcément amoureux. C'est juste que elle, ce qu'elle veut, c'est le frisson en fait. Elle veut juste tromper son mari. Et elle en a eu l'opportunité avec cet homme qu'elle retrouve dans la chambre d'hôtel. Mais elle est pas, elle le dit, elle est pas amoureuse d'elle. Elle est pas amoureuse de lui. Elle arrête pas de dire d'ailleurs qu'elle aimerait revenir au premier moment où ils se sont rencontrés pour recréer ce moment où enfin elle a été une femme adultère justement. Et lui, l'homme. Bah il est pas
c'est un goujat de la pub, de la pire espèce.
Oui, lui il s'en fout complètement.
Alors ouais. Lui il s'en fout complètement. Alors ce qui l'intéresse c'est clairement l'acte charnel.
Ouais, c'est ça.
Je pense que là il donne sa pleine mesure d'homme, c'est ça, dans l'acte charnel.
Ouais.
Donc en fait, il baise et l'autre les regarde avec un disons une envie à peine masquée. Pour écrire juste c'est poésie, on sent qu'il a besoin un peu d'une muse ou quelqu'un comme ça pour le... Chaque poète a besoin de sa muse et lui, il trouve dans cette femme un peu dévergonzée par choix et ennuyée par son mari, il trouve une muse, en fait, pour ses écrits.
Oui, d'ailleurs, ouais, c'est exactement ça. C'est donc ce gars-là, alors je sais plus, est-ce qu'il écrit du théâtre ou est-ce qu'il écrit de la poésie? C'est de la poésie hein, qu'il écrit.
Pour moi, il écrit de la poésie, mais il a écrit, enfin justement, il lui a présenté un moment un long poème. Alors on se demande si c'est pas un poème en prose, je me souviens plus vraiment, ou alors que peut-être c'était du théâtre. Oui,
c'est ça. Donc en fait ce qui est intéressant aussi, et je pense que ça a été c'est un procédé, c'est assez évident en fait, c'est que donc on a un premier personnage qui observe deux amants dont un des deux amants a écrit, donc il parle de deux autres amants. Donc en fait on a un jeu de regard en fait, on a une personne qui regarde ces gens-là qui eux-mêmes regardent une série d'amants et donc dont ils racontent l'histoire. Donc là, on a une sorte de mise en abîme. Mais avant ça aussi, ce que je voulais dire, c'est la façon dont il parle du sexe, en fait, Barbus. Parce qu'il parle jamais totalement du sexe, c'est toujours des moyens dérivés. Je trouve que ça, par contre, c'est vraiment très bien écrit. Je sais pas ce que t'en as pensé. Les scènes de sexe sont assez bien écrites.
Ouais, je pense que c'est assez typique de l'époque où on était gentiment pudibond. Par exemple, à l'opposé de ce qu'a pu écrire plus tard un Céline, en fait. J'imagine
ouais.
que les gens étaient plutôt réservés sur la question à l'époque. Et on regarde, ça se retrouve dans énormément de livres publiés fin 18e, fin 19e, début 20e. Hein.
Tu regardes. Ouais, mais...
Proust
mais...
avait cette fameuse expression pour parler de l'amour, il appelait ça « faire Cattleya ». Et Cattleya, c'était les fleurs.
C'est pas beau. C'était faire la chose. C'était faire la bagatelle.
Ouais, faire la chose. C'est ça. Aller chez Denise.
Mais malgré ce côté réservé, on a quand même pas mal de scènes de sexe, que ce soit avec ce couple-là ou avec les deux femmes qui se retrouvent juste après. Ça, tu les as notées, ces deux femmes-là? Est-ce que tu t'en souvenais?
Non, je me suis permis de détourner le regard à ce moment-là. Je n'osais pas regarder.
Non, mais moi aussi, j'ai fait ça, j'ai trouvé ça dégueulasse. Donc, on a juste après, on a deux femmes qui font la chose, elles aussi.
Là, clairement, on se rend compte qu'une chambre d'hôtel n'est pas vraiment un lieu de vie, mais avant tout un lieu de sexe.
Totalement.
Parce que il faut imaginer que cet hôtel, comme il nous a été présenté dans les premières pages, n'avait pas vraiment vocation à être un bordel, quoi. Et en fait, il s'avère que même les enfants viennent s'embrasser dans les combles, alors.
Ouais.
Que dire de la réputation de cette maison?
Bah écoute, moi je préfère pas trop en parler, hein, parce que ouais, si je devais leur, si je devais leur mettre des étoiles sur sur TripAdvisor, je peux te dire que je leur mettrais.
Bah, surtout qu'il y a des trous dans, il y a des trous dans les murs.
Ouais, il y a des trous dans les murs en plus. Ouais.
Il y a sûrement des mythes.
Il y a des mœurs répressibles.
Ouais, ça, plus que répressible. Disons que la brigade des mœurs aurait dû intervenir depuis longtemps dans cet hôtel.
Je préfère même pas parler de la nourriture. Ouais, ce que je voulais dire aussi.
Est-ce que tu as repéré quelques prémices de son engagement communiste futur?
Bah, il en parle assez souvent. Ouais. Alors, je sais pas si est-ce que t'as noté des passages, mais il parle assez souvent de... Alors, malheureusement, je l'ai pas noté, mais il y a pas mal de passages où il dit qu'on est vraiment tout petit de toute. Oui, alors oui. Tout ce passage astronomique où il parle de l'infiniment petit et l'infiniment grand, mais ça c'est vers la fin.
Ouais. Ça m'a rappelé un peu Barjavel, ça. Tu sais, qui aimait bien aussi remettre des petites informations scientifiques dans ses bouquins pour étayer ses dires.
Ouais.
Et honnêtement, j'ai trouvé ce passage, pour le coup, sur l'astronomie, sur l'infiniment petit, l'infiniment grand, l'accroissement continu de l'univers, etc., la taille des atomes, etc. J'ai trouvé ce passage vraiment très rafraîchissant dans un livre qui, clairement, laisse peu respirer le lecteur. Hein, dans
ouais. Non, ça c'est assez vrai. C'est vrai que c'est très touffu dans la description, mais après il y a des passages assez surprenants. Ben alors on a donc pour revenir à où ça en est, puisque là on est donc après ces femmes. Donc on a eu le couple adultérin, on a eu les femmes, et après ça on a un vieillard moribond avec sa future femme.
Moribond.
Alors bon, j'ai pas compris parce que en fait c'est une configuration assez compliquée, puisqu'on a il y a donc ce fameux vieillard avec sa future femme qui a 60 ans de moins que lui, et une autre femme qui est enceinte à côté dans la chambre. J'ai pas compris qui était cette femme.
Bah, au début je me suis dit que c'était sa fille.
Ouais.
Sachant que j'ai pas très bien saisi non plus. Mais en fait, d'après les descriptions qui ont été faites des deux femmes, disons que en se mariant avec celle qui avait 60 ans de moins que lui, il a fait le bon choix, le vieillard.
Ouais, clairement, oui. Puisqu'elle va littéralement lui faire un striptease.
Alors, oui, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Alors, je cherchais un terme un peu plus... Disons, c'est de l'effeuillage. Et non, il n'y a pas... Non, c'est un striptease. Hein. Clairement, c'est... Il y a les caches-tétons en fluo. Enfin, je veux dire, c'était olé olé.
Ouais.
C'est Moulin Rouge.
Donc, on a plusieurs phases. Donc, on a clairement le sexe, l'amour. Et donc là, avec ce vieillard, on a la mort. Et on a ces médecins qui se succèdent à son chevet et qui parlent de son cas. Et on a toute une phase où il parle donc des différents... Et il parle de la teneur du cancer, en fait. De la nature même du cancer qui est formée par l'humain lui-même, en fait. Notre corps lui-même forme le cancer. Et donc après on a toute une discussion scientifique sur les différentes natures de cancer et sur sa formation et sur le fait sur les traitements possibles et sur les enfin c'est moi j'ai trouvé ça assez intéressant, je sais pas pour toi.
Si moi ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais dans le fond faut quand même disons à conserver à l'esprit que la thèse du bouquin c'est que l'homme est un immonde tas de caca, quoi. Donc il produit lui-même sa propre perte en créant son cancer. Il y a quand même, c'est un bouquin foncièrement pessimiste.
Oui, clairement, oui. Clairement, oui. Puisque en fait, même le héros, là, tel que tu disais, oui, puisque l'homme est son propre cancer, mais le héros lui-même, son seul problème, c'est lui-même, en fait, puisque il pourrait très bien avoir les conditions réunies pour être heureux, mais son problème, comme il le dit, c'est que vu que l'enfer c'est la fureur de vivre, lui il se détruit lui-même puisqu'il a besoin de plus tout le temps. D'ailleurs on a un moment, ça c'est un moment où il marche dans la rue justement, il quitte sa chambre d'hôtel.
Ouais.
Puisque c'est 99% du roman, c'est un huis clos à part quelques passages, et donc il quitte sa chambre d'hôtel et alors il trouve une femme, il la suit dans sa chambre, il couche avec elle. Et puis hop, il passe à un nouveau paragraphe parce que comme si ça avait pas vraiment d'importance. Après il veut plus. Donc
très curieux. Et avec effectivement cette fin abrupte et hyper inattendue, en fait, on s'était dit, bon, ok, donc là, pendant la première partie du livre, on peut dire, ah bon, c'est un pervers lambda, et en fait, non, c'est quelqu'un qui, enfin, disons, qui, il n'a pas juste assouvi un besoin en couchant avec cette femme, il a juste, enfin, c'était plus l'ouverture vers quelque chose d'autre, en fait, c'était qu'un début, en fait.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça que j'ai pensé. Moi, je me suis dit, bon, ça va être une histoire de perversion, ça va être rigolo. Mais en fait, c'est pas du tout ça, puisque lui-même, quand il couche, ça l'intéresse pas tant que ça, en fait. Ce qu'il veut, c'est observer l'humain. Donc il a un peu, ouais, ce qu'il veut, c'est un peu avoir accès à l'humain, à la vérité humaine, puisqu'il le dit lui-même en fait. Quand il va rencontrer il va être dans un restaurant avec un écrivain à un moment. Donc ça, c'est plutôt vers la fin. Et il dit que cet écrivain qui se targue de raconter la vérité, lui ne raconte pas la vérité. C'est ça. En fait, cet écrivain, il écrit un roman qui est exactement son roman à lui, qui est son histoire à lui. C'est l'histoire d'un homme qui trouve une brèche au-dessus d'une porte et qui observe les gens. Et donc, c'est exactement son histoire à lui. Et donc, voilà. Donc là, en fait, on a une image de la vérité telle que l'écrivain le voudrait. Mais le narrateur dit que c'est pas du tout ça la vérité, en fait.
Assez surpris de découvrir que qu'Henri Barbus avait viré communiste, même qu'il l'a toujours été,
il a toujours eu des sensibilités.
Ouais, j'ai été assez surpris de ça parce que il a clairement une pensée foncièrement. Donc sa pensée est souvent empreinte de religion. Je pense notamment au fait que reprises il insiste sur le fait que plus on souffre sur Terre, plus grande sera les plaisirs à plus tard, ou disons dans l'au-delà. Et c'est hyper curieux cette approche très religieuse, ouais, de la souffrance.
Ça c'est le prêtre qui dit ça. Ça c'est le prêtre. Oui, parce que en fait le vieillard mourant, il a, en plus des médecins, il a un prêtre qui vient à son chevet et qui lui explique ce que tu viens de dire là, que plus on souffre sur terre, plus on est récompensé au ciel. Mais le vieillard, il veut pas du tout. Il est pas du tout client de ce genre de théorie. Et voilà, tu voulais ajouter quelque chose sur ce fameux passage du vieillard.
Ah oui, d'ailleurs, on avait oublié un passage. C'est le passage où il observe en fait quelqu'un en train de voler de l'argent dans la chambre d'à côté. Je sais pas si tu te souviens.
Et ça c'est quand le vieillard meurt. En fait, il y a quelqu'un qui entre,
ouais,
et qui lui vole son, ouais, argent.
Et c'est hyper gênant de regarder ça. C'est,
ouais.
Et encore une fois, c'est là qu'on se rend compte qu'il prend son pied en regardant, parce que à aucun moment il lui vient l'idée d'intervenir ou de, disons, de prévenir quelqu'un, etc. Non, non, c'est juste un observateur de la vie. Et il n'agit, ouais, pas. C'est pour ça que il y a comme un peu le procédé de la fureur de vivre est rapidement stoppé parce que le personnage, disons, ne vit pas, ou ne vit que très peu.
C'est ça. Non, il vit extrêmement peu, ouais, parce que lui, il vit juste pour les autres, en fait. Il vit pour se nourrir des autres. Alors, est-ce que... Alors, je vais pas parler de la dernière partie, parce qu'il faut laisser un petit peu... Je sais pas si les gens veulent le lire, mais on a quand même une dernière partie après la mort de ce vieillard. Aussi, on a une dernière personne qui arrive. Je sais pas si tu...
Oui. Ben, attends, mais comment s'appelle-t-il, cet homme? Parce que je crois qu'il a droit à un nom.
Il a droit à un nom. Peut-être que c'est sa femme qui lui donne un nom. Bon, bref, ouais, en tout cas, bon, on s'en fout, de toute façon, vous êtes censé le connaître. Tu sais, en fait, après la mort du vieillard, on a il y a l'amant de la fameuse femme qui arrive. Donc,
l'amant de la Vénus.
Exactement. Et donc, en gros, il meurt sur le, il, pardon, pas il meurt, ils font la bagatelle sur le lit où vient de mourir le pauvre homme. Donc voilà, donc on a une dernière scène de sexe très intense qui, elle, est dû à l'amour, en fait, puisque ça n'a rien à voir avec, ouais, avec les premiers amants. C'est une scène d'amour. C'est très différent, mais c'est tout aussi intense.
Ouais, hyper encore porté sur l'érotisme, etc. Mais je comprends pas très bien pourquoi elle a été incorporée là, à un moment où clairement le bouquin accepte une forme de déchéance humaine, et ben là il y a quelque chose un peu qui sauve. C'est comme un espoir, une lumière dans un couloir. C'est un espoir pour tous les gens qui ont été déprimés par la première partie du bouquin. On peut se dire, bon, bah, si vous baisez avec quelqu'un que vous aimez, a priori, vous pouvez vous en sortir.
Parce que la rédemption, c'est l'amour.
Oh, c'est beau. Et est-ce un mot de la fin?
Qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Alors, moi, franchement, je me suis dit, wow, c'est... Il y a des grosses longueurs, des passages pas évidents à lire, parce qu'encore une fois, c'est pas un livre très positif, c'est pas un positif au sens d'affirmatif, c'est beaucoup en supposition, beaucoup en non-dit, beaucoup en choses qui se laissent entendre. Et je trouve que le bouquin n'a pas été sauvé, par exemple, comme ça peut être le cas dans d'autres bouquins très cyniques, très très froids, très durs. Il n'a pas été sauvé par une forme d'humour ou de dérision qui aurait pu être franchement la bienvenue dans un bouquin aussi noir et pesant.
Ouais, moi je m'attendais justement à puisque j'avais jamais lu d'Henri Barbusse auparavant, je m'attendais à ce que le livre soit un peu plus comique, qu'on ait quelque chose de plus dans la dérision.
C'est chou, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors que là c'est très 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 c'est vraiment c'est straight to the point, c'est très objectif en fait, c'est vraiment ses impressions pures. Ça le rend pas moins intéressant, mais c'est vrai qu'il y a quelques longueurs en fait, et c'est assez embrouillé, c'est-à-dire qu'il passe vraiment du coq à l'âne assez souvent. Moi j'ai vraiment eu des passages où j'ai, ça d'ailleurs c'est assez désagréable, mais je pense que ça t'arrive, et ça arriverait je pense à beaucoup de gens, c'est que j'ai parfois, ça, pour lire une page ça me prenait 10 minutes, puisque je revenais, je butais sur les phrases, et ça c'était assez désagréable.
C'est un bel aveu que tu viens de nous faire. Moi je te cache pas qu'il y a certains paragraphes où je me suis dit oula, et hop, je me retrouvais au petite ellipse temporelle, et je me retrouvais à la fin du paragraphe comme par un même miracle. Ah bon, ah bah c'est étonnant ça. Et en gros ça m'a permis d'arriver au bout des 300 pages du livre, mais faut pas s'y méprendre. Si en fait c'est un livre qui demande à être concentré pour le lire.
Ouais.
On peut pas, c'est pas un livre de plage, c'est pas un livre de métro, c'est pas un livre que vous pouvez lire entre deux.
On peut en fait, si on veut, si on est décidé à faire de la philosophie à Jean Lépin, ouais, y a pas de problème. En tout cas, ce livre a tout, hein, si on le prend comme ça, parce qu'il y a du sexe, il y a beaucoup de scènes de sexe comme on l'a dit, il y a la mort, il y a le vol, il y a du théâtre, puisqu'à un moment il va voir une pièce de théâtre. Là encore, il est en observateur en fait de la vie. Il y a cet autre écrivain qu'il rencontre. Il y a la mort.
Et la vie, c'est ça qui est intéressant.
Et la vie.
Aussi, on voit la femme accoucher.
Absolument, oui, puisqu'on voit la femme enceinte accoucher. Ouais. Ouais.
On a vraiment droit à tout un panel, un large panel de la vie dans ces turpitudes et ces...
Tout à fait. Et on a toute une, on a
inflorescence.
On a toute une réflexion astronomique sur le, littéralement astronomique, puisqu'il s'agit d'astronomie, sur l'infiniment petit et l'infiniment grand. Ça, j'ai trouvé ça vraiment fascinant, puisque ce savoir, je savais pas qu'à cette époque-là, on en connaissait déjà autant sur les planètes, qu'on pouvait déjà aussi bien les observer. Je dis les planètes, mais c'est les étoiles. Et aussi sur les atomes, sur les cellules. Savoir les nommer, savoir les identifier, on a toutes ces réflexions là qui sont vraiment vraiment intéressantes. Pour le coup, j'ai trouvé que ça c'était plus intéressant que la trame principale. Pareil pour la réflexion des médecins sur le cancer et les scènes de sexe. Moi, j'ai trouvé très honnêtement que c'était un des écrivains qui décrivait le mieux les scènes de sexe en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à se les représenter, mais sans obscénité en fait. C'est... J'ai trouvé que c'était un beau, que c'était assez beau. Ouais.
Donc en fait, si je résume ta pensée, c'est le bouquin sur un, c'est un bouquin pervers, mais sans obscénité et avec quelques longueurs.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça l'enfer.
Est-ce que tu...
Il y a juste un passage que j'ai beaucoup aimé qui pour le coup m'a un petit peu fait rire. Donc ça, c'est les premiers amants. Je voulais lire un passage. C'est les premiers amants en fait quand ils ont fini de faire l'amour. En fait, il décrit la baisse de tension de l'homme en fait après avoir terminé. Il est plus du, il est tout raplapla et il est plus du tout intéressé. Et donc La fin, c'est lui sur une chaise, la figure triste, les jambes ouvertes, le pantalon débraillé, halète lentement, souillé de toute la jouissance morte et refroidie. Voilà. J'ai trouvé ça beau.
Ça donne envie de lire. Oui, c'est beau.
Voilà. Alors, c'est beau, et en plus, on peut, ouais, on peut tout à fait s'imaginer un mec, donc maintenant, au temps moderne, un gars blasé après s'être maté une vidéo sur YouPorn avec son pantalon à cheville.
Écoute, je crois que c'est une belle image de deux personnes devant leur ordinateur en train de faire un podcast. Je crois que j'en suis.
Exactement, ouais, c'est ça.
Le pantalon qui est encore au genou, là.
Merci Henri de nous avoir accompagnés pour ça et d'avoir mis des mots sur notre propre perversion.
Merci Riton. Et bientôt, voici la deuxième étape du podcast.
Alors, attends. Je pense qu'on a oublié quelque chose. Puisque on voulait aussi, ouais, faire un petit classement des œuvres classiques, puisque la semaine dernière on avait donc critiqué Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee, et donc on voulait dresser une liste des romans qu'on a critiqués, du meilleur au moins bon, et pour l'instant on en a qu'un seul, et bientôt deux. Alors est-ce que tu placerais L'Enfer avant ou après le Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur?
Franchement, alors, je vais pas m'en sortir avec une pirouette en disant que c'est deux bouquins qui n'ont rien à voir, mais...
Parce que clairement, c'est deux bouquins qui n'ont rien à voir. Je sais même pas s'il y a une seule scène de sexe dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur.
Bah, évidemment que non, c'est une gamine qui raconte une histoire. S'il y avait des scènes de sexe, ça serait un peu limite, quand même.
Non, si, il y a une scène de viol.
T'as une scène, une tentative de viol, d'ailleurs, qui n'aboutit pas.
Tentative de viol, c'est vrai. Ouais. Qui implique...
Donc, alors, pour le classer, je dirais que L'Enfer est peut-être un peu supérieur pour sa, disons, pour son objectif hyper universaliste et audacieux. L'Enfer, c'est clairement un bouquin audacieux, alors que Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur manque peut-être un peu de ce côté.
C'est audacieux, mais c'est moins, pour le sujet, c'est moins, disons que c'est moins marquant. C'est comme on l'avait déjà dit, c'est peut-être du déjà vu. Mais moi honnêtement, pour l'expérience de lecture, J'ai eu moins de mal à lire. En tout cas, mon expérience de lecture a été plus fluide avec Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur qu'avec L'Enfer.
Ah oui, c'est clair. Ouais. Et d'ailleurs, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, j'ai lu en vitesse rapide, 1x4. Hein.
T'as mis l'accélération comme sur VLC.
J'ai mis l'accélérateur.
Ouais, donc toi tu mets...
Mais je sais pas, je suis mitigé, mais j'ai dit L'Enfer, donc je reste sur L'Enfer, mais... C'est deux bouquins qui m'ont pas spécialement plu, de toute façon.
Ok, bah écoute, moi je te l'accorde. Donc pour l'instant, L'Enfer est notre livre préféré, premier de la liste.
Ouais.
L'Enfer d'Henri Barbus.
Mais ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, reste sur le podium. Hein.
Voilà.
Ne vous en faites pas.
Alors pour l'instant, ouais, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur est dernier, mais j'ai bonne confiance. Je pense que nous allons trouver des livres bien plus médiocre que Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, et aussi des livres qui n'ont pas gagné le Booker Prize, donc voilà. Oui. Je pense que ce livre n'est pas voué à rester dernier. Voilà, un mot ajouté.
Non, je pense qu'on en a assez dit.
Oui. Alors juste donc sur le site, je sais pas si je l'avais dit, on va mettre une liste sur notre site internet qui est en état de gestation en ce moment même et qui va sûrement sortir dans les prochains jours.
Dans 9 mois.
Et donc on aura une section avec la liste des romans qu'on a critiqués. Ça devrait sortir dans les prochains jours. Deuxième rubrique.
On passe à la deuxième rubrique.
Jingle, deuxième rubrique.
La longue œuvre de Proust me paraît courte. On voudrait lire et relire encore après la dernière ligne du temps trouvé.
De ne pas être dans la sympathie. Et c'est ça le génie de Camus. Et c'est ça qui m'intéresse, Camus et hip-hop.
Je me prends pas pour un Quichotte, mais souvent je me suis pris pour le cheval de Quichotte.
Ce n'est peut-être pas très original, mais le livre qui a changé ma vie est, je crois, Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline.
Houellebecq est un écrivain important de notre époque parce qu'il décrit exactement la misère sexuelle de notre époque.
Alors, donc pour cette semaine, donc c'est un puisque la deuxième rubrique c'est un billet d'humeur. Alors, est-ce que tu veux nous dire de quoi il retourne, puisque c'est toi qui nous a fait un beau billet d'humeur cette semaine, JR.
T'écoute. Alors, quand on m'a dit que c'était à moi de faire le billet d'humeur, j'ai hésité, j'ai failli me faire porter pâle. Puis je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire décoller le podcast. Alors, j'ai d'abord cherché une star, quelqu'un qui peut fédérer, capable de réunir autour de sa personne notre tranche d'âge, disons cible, pour parler un peu comme des commerciaux. Alors, sachant que cette tranche d'âge, c'est quoi? C'est du 8-12 ans. Je me suis dit, bon, Annie Cordy, non. Miley Cyrus, non. Dracofeu, non. Et paf, Hermione Granger. Je me suis dit, elle est belle, elle travaille bien en classe, elle milite contre les discriminations, elle sort même avec un roux dans Harry Potter. Alors forcément, c'est une personne cool, anglo-saxonne, née à Paris, de parents riches. Bon, à défaut d'avoir séduit nos auditeurs, elle nous a déjà séduit nous, donc les fondateurs du podcast. Et ça, c'est déjà quelque chose de bien. Reste à trouver un rapport avec la littérature. Et hop, Trump, c'est Trump, l'élection de Trump qui nous en a donné l'occasion. Parce que la petite Hermione, qui d'ailleurs s'appelle Emma Watson, disons dans la vraie vie, hein, donc dans le film de la vraie vie, est parti immédiatement à New York pour distribuer des livres dans le métro, pour un peu lutter contre cette ignorance crasse américaine qui a permis l'élection d'un immonde personnage. Donc elle donnait des bouquins des New-Yorkais, c'est un peu comme, enfin, pour lutter contre l'élection d'un républicain, c'est un peu comme aller distribuer des tracts anti-Le Pen à la fac de Nanterre ou à la Sorbonne, ou offrir un hot-dog à un enfant obèse. Clairement, vous aurez droit à des sourires de compassion, etc., mais aussi à un triple pontage, vous aurez un triple pontage sur la conscience. Voilà pour moi. L'idée, c'était de dire que cette Hermione, elle est très gentille, elle est très belle, etc. Mais je suis pas tout à fait certain que son initiative permettra aux Américains d'élire quelque chose d'autre qu'un Donald Trump. Voilà pour moi. Mais d'ailleurs, sachez que cette Hermione, parce que figurez-vous que là, je suis en freestyle complet, a été diplômée d'un master en littérature anglaise à l'université... une université américaine, donc c'est quand même pas n'importe qui, et ça il faut s'en souvenir, notamment pour quelqu'un qui a joué dans des bouquins d'Harry Potter.
Alors moi, justement, en fait, moi, Emma Watson, je la suis sur Instagram, et en plus donc de distribuer des livres dans le métro de New York, elle est dans des groupes littéraires, dans des book clubs. Et elle est fan de lecture, en fait, et elle poste ses lectures sur Instagram, elle en parle, elle fait des critiques, elle fait un peu ce qu'on fait. Et donc voilà, donc elle a un vrai intérêt pour la littérature. Je sais pas exactement quel type de littérature, mais vu ce que j'ai vu, c'est pas des romans de gare, elle a l'air de s'y connaître. Et donc je pense que c'est pas juste un gros coup de pub, même si ça en a l'air, c'est quand même assez motivé. Je pense qu'elle sait de quoi elle parle. Elle a son profil sur Goodreads, et elle a l'air d'être assez littéraire. Ouais. Et elle manie bien la baguette.
Je vais pas laisser le silence s'installer pour pas trop créer de gêne.
Merci. Mais j'apprécie.
Donc en fait, j'ai quand même essayé de chercher à savoir dans quel domaine, parce que littérature anglaise c'est intéressant, mais dans quel domaine elle avait reçu, enfin avec quelle spécialité, ou au moins avec quelle thèse elle avait reçu son degree de l'université, j'ai pas trouvé, donc je peux pas vraiment vous donner davantage d'informations sur ses spécialités. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle lit beaucoup de livres féministes, mais on n'est pas dans la féministerie crasse, etc. non, c'est... En gros, c'est des bouquins qui prônent une égalité homme-femme. Donc, tout à fait ce qu'il y a de plus beau. Contrairement à l'enfer d'Henri Barbus, bien sûr.
Exactement.
Est-ce que ça t'inspire quelque chose, toi, cette élection de Trump et des bouquins, etc.? Y a-t-il un rapport?
Alors, écoute, moi, je me suis dit que... Alors, ça a été ma première décision quand son élection était annoncée, ou quand j'ai vu que ça commençait à sentir le moisi. Je me suis dit que j'allais pas suivre les actualités pendant 4 ans. Et puis que j'allais me réveiller au bout de 4 ans comme d'un coma et voir ce qui se serait passé. Et puis après, je me suis dit que ce serait pas tout à fait possible, donc j'ai pleuré, j'ai eu une phase de deuil, et maintenant ça va mieux. Voilà, je pense qu'on peut repartir de l'avant et avancer, puisque de toute façon, dans notre chère patrie, l'équivalent féminin de notre tête orange préférée va peut-être être élue. Donc voilà, je me suis dit que le temps est un cercle permanent.
Bah écoute, c'est une très belle conclusion, un peu philosophique, qui donne envie de réfléchir. En tout cas, il est élu pour 4 ans, donc on va voir ce que va. J'imagine que ça va être un vrai coup de collier, quoi, mis sur la littérature américaine qui va trouver d'autres bouquins que son propre malheur et sa propre misère, et qui va peut-être attaquer un peu autre chose. Je pense que ça peut être une bonne nouvelle pour la littérature.
Oui, probablement, puisque c'est dans le désespoir que la meilleure littérature naît.
Encore une fois, tu termines par des aphorismes sur lesquels je ne peux pas du tout rebondir. Merci.
Mais c'est pas grave, on te demande pas. Regarde Trump, il peut faire des débats. Il a fait 2 débats sans jamais réagir à ce que disait Hillary. Ça s'est très bien passé.
D'ailleurs, honnêtement, est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un s'appeler Hillary aussi peu sourire de sa vie, de ces six derniers mois? J'ai trouvé ça affolant.
Ouais, je vais me le dire à un moment. Ouais. Non, c'est vrai qu'elle. Je sais pas. Est-ce que t'as vu son passage chez Zach Galifianakis?
J'ai pas eu cette chance.
C'est le moment de télé le plus gênant du monde, puisque là, il la vanne pendant 5 minutes et elle réagit pas un seul instant et elle lui dit de. Et elle commence à l'engueuler. Enfin, c'est horrible. Ah oui, d'ailleurs, au début, il se fait plaquer par un de ses gardes du corps parce qu'il essaie de s'approcher d'elle en déguisé en gorille. C'est juste horrible.
Écoute, ouais, non, ça me surprend pas que ça soit pas la femme le plus hilarante du monde.
Voilà. Mais son mari est quand même. Ouais, son mari.
Alors que oui, son mari est un joyeux de riz. Alors voilà. Très curieux, très curieux.
Je pense que Ségolène Royal est un personnage assez triste, alors que apparemment notre cher président Hollande est un.
Bah, Jacques Chirac et Bernadette. Enfin.
Ah ouais, c'est le meilleur exemple.
Si je la connaissais pas si bien, Hillary, je dirais qu'elle est mal baisée, mais je me permettrais pas.
Non, je pense que Bill est un étalon.
Oui, mais. Ouais. Un peu comme Jacques Chirac, j'ai du mal, tu vois. J'ai un peu un blocage psychologique. Pour le coup, le Henri Barbusse.
Ah non, Chirac, moi, je l'imagine totalement.
Henri Barbusse me serait d'une grande aide pour imaginer des scènes de sexe entre les Clinton. Voilà.
Alors, tu te mettrais là, dans une petite chambre, dans un petit cabinet, avec une petite brèche qui donnerait sur le bureau présidentiel, et tu regarderais tout ce qui se passerait en bavant.
Ouais. Je suis inquiet, j'ai besoin de Barbus là. J'ai besoin.
Voilà, donc alors sur ces mots, est-ce qu'on passe à notre troisième partie peut-être, les recommandations?
Je pense qu'il est temps, d'ailleurs en régie on me dit qu'il faudrait pas tarder là, parce qu'on, enfin, disons qu'il y a l'émission 100% foot qui est après nous, donc
ouais.
Qui prend le studio, donc il faut y aller, ouais. Ouais,
merde.
Est-ce que tu veux commencer avec ta première recommandation? Quelle est-elle?
Alors, justement, d'ailleurs, ça tombe bien puisque c'est une, on a deux, trois, on est bon pour les transitions. Vu qu'on était sur Trump, alors moi j'ai choisi un livre qui est absolument d'actualité. Donc c'est The Way We Live Now d'Anthony Trollope, qui est pour le coup un grand classique. En français, ça a été traduit par Quelle époque avec un point d'exclamation, donc qui fait un peu. Quelle époque, qui fait un peu titre de vaudeville. Et c'est donc ça a été pourtant, même si c'est vraiment d'actualité, ça a été publié dans les années 1870. Anthony Trollope est un des plus grands écrivains anglais de son temps, et je pense même en général. D'ailleurs, là, je l'ai vu dans une liste sur le Guardian. Le livre est cité plusieurs fois. Donc voilà, je pense que c'est les gens continuent à le lire. Je l'ai lu le mois dernier, et comme ma précédente recommandation, c'est un gros pavé de presque 800 pages, avec des paragraphes interminables, mais une expérience de lecture vraiment très agréable. Donc, alors pourquoi je dis que c'est d'actualité? Alors simplement puisqu'en fait il s'agit de l'ascension puis de la chute d'un étrange personnage qui s'appelle Augustus Melmoth. Personne ne sait, donc il arrive à Londres, puisque tout se passe à Londres, et personne ne sait qui est cet homme. On sait pas s'il vient de Paris, on sait qu'il a un accent, il a un accent, sa femme a un accent, sa fille a un accent, il a un nom français, on sait qu'il a vécu en Allemagne, on sait qu'il est peut-être juif, mais on sait pas exactement de quel pays il vient, et on sait pas non plus de quelle façon il a fait fortune, puisque il faut savoir que cet homme, c'est un multimillionnaire, peut-être milliardaire, dans l'argent de l'époque, on ne sait pas exactement. Il est immensément riche. C'est des anciens francs, bien sûr, à Londres, oui, tout à fait. Des anciennes livres. Donc, il arrive à Londres.
Pas des livres classiques.
C'est ça. Non, c'est des livres. Ouais, des livres modernes. Je sais pas du tout comment réagir à cette vanne. Donc, je vais continuer sur mon livre. Donc, Monsieur Melmotte, avec sa famille, occupe la maison, une des plus grandes maisons de Londres, dans un quartier riche. Et peu à peu, donc, ils montent les échelons, ils créent des compagnies, dont une gigantesque pour construire un chemin de fer entre San Francisco et le Mexique. Et voilà. Et donc, autour de lui, il y a plusieurs grandes familles riches et aristocrates anglaises. Donc on a les Carbury, on a les Longstaff, on a des noms incroyables qui sont autour de lui et qui gravitent autour de lui pour son argent en fait. Même s'il déteste le personnage puisque il est totalement vulgaire, ils ont besoin de lui puisque le livre ne se centralise pas que sur cette personne, mais sur les vies, les multiples vies de toutes ces familles là. Donc on a Madame Carbury qui veut marier à tout prix son fils à la fille de Monsieur Melmotte parce qu'elle a besoin d'argent. On a les Longstaff qui le méprisent absolument, qui méprisent cette famille là et qui essaient le plus possible de rester entre nobles. On a aussi beaucoup de scènes dans les salles de jeu en fait, dans les salles de jeu et d'alcool de l'époque où se retrouvaient tous les nobles. Dépravés donc, qui ont de multiples relations avec des filles qu'ils laissent sur le carreau après et qui boivent, qui jouent en fait. C'est pour ça que c'est très c'est beaucoup d'actualité. Et alors c'est surtout d'actualité puisque Augustus Melmotte va finalement accéder à une position de député je crois à Westminster. Donc il va accéder aux honneurs politiques que peuvent lui fournir sa fortune. Donc son pouvoir lui donne ça. Il va même aussi accueillir l'ambassadeur de Chine dans sa maison personnelle. Donc voilà, c'est un peu tout ce mélange d'argent et de pouvoir qui vont mener peu à peu à la chute aussi monumentale que son ascension de ce personnage haut en couleur de Augustus Melmotte. Voilà, donc c'est un livre que je recommande chaleureusement et que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Donc en français, ça s'appelle Quelle époque ? Et l'auteur est Anthony Trollope. Voilà à toi.
Ben écoute, merci beaucoup. Moi, je vais vous parler d'un bouquin qui, clairement, est un peu moins vieux en âge. C'est un livre de Junichiro Tanizaki. Comme son nom l'indique,
ah, le fameux, suédois. Tu voulais le faire, celui-là.
Oui, il est suédois.
Le fameux suédois.
Alors, le livre s'appelle « Histoire secrète du sire de Musashi ». La traduction est super, en fait d'ailleurs c'est un super traducteur de japonais qui s'appelle Marc Mécréant. Tous les livres qu'il a traduits du japonais sont excellents, c'est à savoir. En fait, donc c'est la chronique d'un guerrier imaginaire du XVIe siècle. Donc c'est un roman très violent, etc., qui raconte un peu qui raconte l'apprentissage sexuel de ce sire, donc de ce personnage noble japonais, disons vers le XVIe siècle. Donc au Japon, c'est une époque où il y a beaucoup de choses qui se refont, etc. C'est la création de l'État centralisé japonais. Donc le moment où il y a beaucoup de guerres, beaucoup de renouveau, renaissance japonaise, etc. Et donc c'est l'histoire de ce sire qui a eu un apprentissage de la vie très dur aux côtés de ses parents, de ses guerriers qu'il a côtoyés. Et notamment, il était fan des têtes tranchées qu'on récupérait sur les champs de bataille. Il était fan de ça, donc il les observait pendant des heures, etc. Et ça a conduit à créer un personnage très énigmatique parce qu'on n'en parle pas, on ne parle que de son enfance, mais dont on suppose les nombreuses déviances, et notamment dans tout ce qui est d'ordre sexuel, bien entendu.
On aime ça.
Alors, le livre s'appelle Histoire secrète du sire de Musashi. Il est de Junichiro Tanizaki.
Eh ben merci. Encore une belle collection de dépravations qui va nous intéresser, sur lesquelles je vais me pencher. C'est écrit. Junichiro Tanizaki. Merci JR. Donc là, on a une dernière partie où il va falloir qu'on choisisse le prochain roman que nous allons critiquer dans le prochain podcast. Alors, je rappelle.
Alors, ce qu'il faut savoir.
Oui, vas-y.
Oui, voilà.
Je t'en prie.
Je me permets de rappeler parce que clairement, moi, je suis en France, toujours à Villacoublay, hein.
Ouais.
Et
pourquoi j'ai la coupe de livres sur la base militaire. On sait pas du
et
tout
donc,
pourquoi.
J'ai accès à des livres, mais Mathieu, lui, est perdu en Nouvelle-Zélande, donc il a accès à très peu de livres et encore moins en français. Donc clairement, on doit piocher parmi le réservoir de Mathieu pour les podcasts.
Ouais. Alors en fait,
ceci étant dit.
Ouais, donc je voulais juste, ouais, parce que la situation est très simple en fait. J'ai pas beaucoup de choix en fait. J'ai le peu de librairies qui y a. Enfin, je dis le peu, non, c'est faux, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc j'ai les librairies avec pratiquement que des livres anglophones. J'ai la Bibliothèque nationale. Là, il y a une section française, mais là, le choix est vraiment pas génial. Et il y a aussi une librairie.
Encore une fois, la SFIO.
Voilà,
SFIO.
Exactement. Et à côté de chez moi, j'ai quand même une librairie qui a une minuscule section française dans laquelle je peux trouver deux trois trucs. Donc c'est là que j'ai trouvé l'enfer et c'est comme ça qu'on a décidé de faire l'enfer puisque je l'ai trouvé dans la section française de cette fameuse librairie que je recommande. Ça s'appelle Pegasus Books à Wellington si jamais vous y passez. Parmi soit les livres que je trouve à la bibliothèque, soit ceux que je peux trouver en anglais qui pourraient nous intéresser, ou ceux de la dite librairie, j'ai fait une petite sélection. Si tu veux, est-ce que tu es prêt, JR ?
Je suis prêt.
Voilà, donc tu vas devoir me dire ce que tu veux lire prochainement, puisque pour l'instant, c'est nous qu'on choisit. Donc j'ai L'Assommoir de Zola. Je sais pas si tu l'as déjà lu. Le vieil homme et la mère d'Hemingway. Tears of the City d'Armistead Maupin. Ça doit être les.
Ah, connais pas.
Alors, je ne sais pas ce que c'est la traduction, mais c'est ça a fait sensation quand c'est sorti. Donc, ça s'appelle Tales of the City. Après, il a sorti un deuxième et un troisième. Donc, tu peux tout à fait lire juste le premier épisode, mais il en a sorti trois. J'ai Le Bûcher des Vanités de Tom Wolfe. The Bonfire of the Vanities.
Ouais, ouais.
Ouais, alors, fantastique, j'ai trouvé Gilles de Drieux-La Rochelle.
Ah mais oui, oui.
Ouais. Et j'ai aussi, donc je te propose, The Return of the Native de Thomas Hardy, qui est un auteur que j'affectionne particulièrement, j'aime beaucoup, beaucoup, donc c'est le retour du natif.
Et l'acteur, là, il s'est mis à écrire maintenant ?
Ouais, c'est ça en fait, il fait pas que de la boxe et des films avec Batman, mais c'est... Non, il fait... Alors, parce que moi j'avais lu Loin de la foule déchaînée... Sinon, j'ai aussi le... Donc, Dieu de l'Obscur, je ne l'ai pas. The Return of the Native, c'est... En français, je sais... Le Retour au Pays Natal, c'est ça. Le Retour au Pays Natal.
Ok. Moi, je suis un grand fan de Drieux-La Rochelle. Donc, quand j'ai entendu Gilles, j'ai été ravi. Mais après, de là à assumer cette passion devant nos milieux d'éditeurs, je ne suis pas sûr. Tom Wolfe, j'aurais été intéressé parce que je crois que j'ai jamais lu de Tom Wolfe. Mais si toi t'es carrément d'attaque pour Thomas Hardy, ça me va.
Celui que je voulais au préalable, en fait, celui que j'étais de toute façon parti pour attaquer là dans les prochains jours, c'était justement Tom Wolfe. Donc, si ça t'intéresse, on peut faire Tom Wolfe pour le prochain.
Tom Wolfe, très bien, très bien. Mais il est pas mort il y a pas longtemps d'ailleurs.
Alors. Ben justement, ça tomberait bien, puisque Thomas Hardy, on pourra le faire plus tard, parce que je pense qu'il est pas mort dans les dernières années.
Hein. Il est mort il y a quelques temps déjà.
Non. Ouais. Donc non. Tom Wolfe n'est pas mort. Il a 85 ans, il est fringant, mais il n'est pas mort. Et...
Il est 85 ans et toujours vert.
Tout à fait. Tom Loulou.
Pour Tom Wolfe. Tu me rappelles le nom du bouquin?
Le bûcher des vanités. The Bonfire of the Vanities.
Le bûcher des vanités.
Voilà.
Ok, bah écoute, ça va, je vais essayer de me procurer ça.
Si tu regardes les photos de Tom Wolfe sur internet, on dirait un peu les fêtes en blanc d'Eddie c'est comment ça s'appelait? Les fêtes d'Eddie Barclay.
Eddie Mitchell.
Où tout le monde s'habille en blanc.
Attends, Eddie Barclay. Ah ouais.
C'est pas ta génération ça. Hein.
Ouais. Ouh là là là, putain, il est très élégant cet homme-là.
Ouais, et donc Tom Wolfe s'habille apparemment une belle propension pour le blanc. Il s'habille en blanc avec des beaux costards et des beaux chapeaux.
Très bien. Bah écoute, on part là-dessus.
Donc voilà, bah, le prochain podcast sera sur le bûcher des vanités de Tom Wolfe.
Ça marche. Et... un dernier mot ou on souhaite bon vent à tous nos auditeurs?
Alors un dernier mot, potiron. Allez, salut.
Salut.
C'était le commencement d'une histoire vraiment dramatique.
Si vous voulez faire semblant d'être en dehors de la misère sexuelle, il faut venir nous le prouver avec vos résultats, l'écrire et le publier.
Alors là, j'ai connu Marcel Proust parce qu'il était un inconnu. Et nous le traitions toujours comme s'il était célèbre.
Quand vous voyez les accidents automobiles arriver, ne croyez pas qu'ils soient tous involontaires. Il y a là-dedans, il y a des vicieux, il y a des gens qui vont vraiment dans l'arbre.